Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Radio Girafe Normandie pour une nouvelle émission de Un Havre de Culture. Je suis Guillaume Leger de Girafe, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés pour cette interview mon ami et confrère Frédéric, le F de Girafe. Bonjour Frédéric.
Bonjour, bonjour à tous.
Et aujourd'hui nous avons le privilège d'être accueillis dans la galerie d'un artiste extrêmement talentueux, un artiste peintre, dont le regard est plutôt orienté vers la mer aujourd'hui, vers les cargos, les porte-conteneurs, les ports, qui nous accueille à son appart et qui s'appelle Stéphane Padu. Stéphane Padu, bonjour.
Bonjour.
Alors juste avant de commencer cet entretien, est-ce que tu peux, on est à l'appart, tu peux nous dire un mot sur l'appart ?
L'appart, déjà, c'est, on peut dire, un atelier-galerie. Ouais. Que je n'ai surtout pas voulu appeler atelier-galerie, ouais. Pour sortir un peu du lot, dans la mesure où l'appart, c'est mon univers, c'est-à-dire que c'est là où je travaille, c'est là où j'expose mes toiles, et c'est là où j'ouvre ma porte pour que, j'espère, le plus grand nombre puisse passer le pas et découvrir mes œuvres.
Alors, c'est une galerie, là on est à l'étage, donc dans ton atelier, voilà. On a ce privilège-là, ouais. Et cette galerie se trouve 105 rue de Paris au Havre.
Tout à fait, ouais, okay. Tout à fait, depuis peu.
Alors, je te propose de faire cette interview en trois parties. Une partie plus sur le domaine artistique, une deuxième partie plus sur le domaine de l'entrepreneuriat que fera Frédéric. Et puis ensuite, on finira par des questions un peu diverses, ouais. Si tu veux bien.
Bah oui, c'est parfait.
Donc Stéphane, toi, tu as un parcours assez atypique, très, très riche. Je sais que tu as fait du dessin, tu as une formation scientifique et technique. J'ai vu que tu avais fait un bac E, donc pour les plus anciens d'entre nous, que nous sommes, le bac E, c'était pour nous le bac le plus difficile, hein, clairement.
Sans doute, ouais.
C'était mathématiques et aussi techniques et dessin industriel. Ouais. Ça a dû certainement influencer le travail que tu fais aujourd'hui, mais je pense que tu nous en parleras. Bref, tu as fait de la photographie également, plein de choses. Est-ce que tu peux nous revenir un peu sur ton parcours et sur ce qui t'a amené à être le peintre que tu es aujourd'hui, s'il te plaît ?
En fait, le parcours détermine ma signature et mon style, tout simplement. Ouais. Donc, c'est vrai que je dis, j'ai eu deux voies, c'est-à-dire la voie scientifique et technique, et puis les beaux-arts en parallèle. On va dire scientifique et technique pour faire plaisir à mes parents, dans la mesure où dessiner n'était pas un métier, donc c'est pour ça que j'ai emprunté cette voie-là. Et d'ailleurs, jusqu'à... ma mère rêvait que je sois pilote de ligne, et c'est vrai que je m'étais inscrit à l'école des pupilles de l'air à Grenoble, mais pour une question d'âge, je n'avais pas été pris.
Même elle avait un lien avec l'aéronautique, ta maman?
Pas du tout, non. C'était dans le cliché, voilà. Bon, ça, au moins, c'était un métier. Par contre, dessiner, non. C'était pas... ça, c'était pas un métier. Okay. Et les beaux-arts en parallèle, puisque en cours du soir, dans la mesure où mes parents ne voulaient surtout pas que j'emprunte cette voie, et je l'ai quand même emprunté seul, et c'est ce qui en fait que, on va dire, le destin m'a rattrapé, puisque aujourd'hui j'en vis, voilà. Et effectivement, peintre, c'est un métier, et ça, je peux l'affirmer, voilà.
D'accord. Mais avant d'être peintre, tu as fait quand même d'autres choses.
Bien sûr. Bah alors, je suis tombé dans la banque par accident. Ça, c'était premier.
Rien à voir. Donc.
Rien à voir.
Parce mais que pour avoir un vrai métier, c'est ça.
Pour avoir un vrai métier. Okay. Non, tout simplement, effectivement, parce que j'ai quitté. J'ai tout simplement fait une fugue en fait pour sauver ma peau, dans la mesure où effectivement, arrivé en classe prépa en maths sup, maths spé, j'ai dit mais non, je ne veux surtout pas devenir ingénieur. Ça, c'est pas ma voie. Donc, et la banque m'a accueilli dans la mesure où je faisais des petits boulots. En tant que stagiaire d'été, et j'ai dit bah pourquoi pas, pour gagner sa vie, pour manger, c'est pas mal. Donc je suis tombé dedans, même si je continuais à dessiner. D'ailleurs, quand j'étais arrivé en banque, pour pas le nommer, c'était le Crédit Lyonnais, on m'appelait l'artiste du groupe, parce que je passais mon temps à dessiner. Et même pour l'anecdote, on avait un nouveau adjoint qui venait d'arriver, enfin un nouvel adjoint qui m'a vu dessiner et est allé voir le directeur de groupe en disant, vous avez vu, monsieur Padu, il passe son temps à dessiner. Et le directeur lui dit, vous avez vu, il dessine super bien. Donc, quelque part, j'avais une certaine immunité. Ouais. Donc je continue.
Les gens te faisaient confiance quand même dans le métier de la banque ou pas?
Ouais,
enfin,
complètement,
les clients,
en fait. En même temps, ouais, c'est vrai que j'ai emprunté des études bancaires par le biais du CNAM, donc oui, je fais pas les choses à moitié, j'ai quand même travaillé sérieusement en banque.
Gros background,
ouais. Et jusqu'à arriver en Normandie, donc maintenant ça va faire 20 ans, où là ça a été l'occasion de me reconvertir, ouais, et de trouver, de mettre un mot sur ce que je savais faire, en fait, en gros, en regardant des fiches du CIDJ et en regardant la définition du mot designer. Et d'accord. J'ai dit, mais designer, c'est ça, en fait. Parce que quand on me demandait ce que je faisais dans la vie, bah, je dessine, je crée, je faisais tout, beaucoup de choses, mais je n'arrivais pas à mettre un mot.
Alors, ce mot existait, ce métier existe.
Ouais, complètement, en fait. Ouais. Mais autant, bon, à l'époque, hein, c'est vrai qu'au niveau de l'information, il fallait aller la chercher. Aujourd'hui, c'est facile, parce que même elle vient à nous sans même aller la chercher. Et là, quand j'ai vu et j'ai mis un mot sur le mot designer, j'ai fait, mais voilà, en fait, c'est exactement ça. Quand on me demande ce que je fais, eh bien, en fait, je suis designer, donc j'ai entrepris une école et en parallèle, donc...
De toutes les compétences que tu avais, tu as pris une école de designer, donc qui correspondait aux compétences que tu avais. Et
Donc j'ai fait ça en parallèle, c'est-à-dire à distance, hein, parce que quand on est arrivé ici, effectivement, en Normandie, c'est un peu difficile d'aller à Paris tous les jours en école, donc j'ai pris cette formation de design d'espace à distance.
Ouais.
Et très vite, d'ailleurs, j'ai décroché des premiers chantiers. Donc, c'est d'ailleurs l'ancien titre d'architecte d'intérieur, de design d'espace. Donc, j'ai très vite enchaîné des chantiers et je n'ai pas fait que de l'architecture d'intérieur. J'ai très vite, effectivement, conçu, dessiné des meubles, enfin, tout ce que je faisais auparavant.
Ouais.
Mais là, j'ai pu enfin les concrétiser. Voilà,
d'accord,
c'est ça.
Parce que là, c'était plutôt d'une manière. Je ne vais pas dire en tant qu'amateur, mais en tant que hobby.
Oui, tout à fait.
C'était à part de ton métier de banquier.
En parallèle, oui, complètement.
En parallèle, tu as été banquier et puis après designer. Là, tu en as fait un métier.
Voilà.
Et après, donc, ce qui t'a amené à la peinture, il y a eu une étape supplémentaire. Donc.
Complètement. Donc, l'arrivée en Normandie, dans un premier temps, on a habité Honfleur même. Et le maire d'Honfleur organise chaque année... un événement où il propose une toile, la même toile, à tous les Honfleurais qui désirent peindre. Et à l'issue de ça, d'exposer leur œuvre au Grenier à sel. Et j'ai trouvé très, très judicieux, enfin, une belle idée, puisqu'en fait, son père lui-même peignait, mais n'avait jamais eu l'occasion d'exposer. Donc il s'est dit, mais en fait, il y a peut-être beaucoup d'Honfleurais qui peignent chez eux et qui ne peuvent pas, un peu dans l'ombre. Et du coup, j'ai pris cette toile. Le thème était l'architecture. Donc en plus, ça tombait pile poil dans
ton domaine,
ce que je faisais.
Ouais.
Et j'ai dû racheter des tubes de peinture parce que ceux des Beaux-Arts étaient complètement secs. Et ça, c'est vrai que je le dis toujours, ce n'est pas les Beaux-Arts qui m'ont fait aimer la peinture. C'est ça qui est dingue, c'est l'histoire de rapport avec le prof.
Ouais, c'était prof, un problème humain, en fait. Là.
C'était un rapport humain et puis surtout, pas du tout pédagogue. Donc c'est un peu dur pour aimer la peinture, du coup. Et c'est pour ça que très longtemps, j'ai dessiné en noir et blanc, en fait, à cause de ça.
D'accord.
Et donc j'ai racheté des tubes de peinture, j'ai peint une porte rue haute en fleur qui était pour moi avec beaucoup de caractéristiques d'architecture honfleuraise. Et à l'issue du vernissage, je ne savais pas, c'est qu'il y avait des prix décernés et j'ai décroché le premier prix de la ville d'Honfleur. Donc,
pour une première, c'était
ça m'a un peu réconcilié.
Un magnifique premier pas.
Mais surtout, c'est que ça m'a réconcilié avec la peinture. Je me dis,
Je suis pas. J'ai peut-être des choses à exprimer.
Peut-être.
Et je peux peut-être me lancer dans cette voie finalement.
Et en plus, ça donne envie de continuer.
Ouais,
voilà,
sûr,
c'est incroyable. Donc très vite, j'ai continué à peindre. Donc j'ai participé à des expositions.
Toujours en tant que designer.
En tant qu'amateur.
Toujours
mes missions de design en parallèle. Et en tant qu'amateur, effectivement, alors je dis toujours, il n'y a pas de différence entre un amateur et un professionnel dans le milieu artistique, si ce n'est que ce n'est pas sa ressource principale.
Ouais.
Un professionnel, c'est sa ressource principale.
D'accord.
Voilà.
Okay.
Mais ce n'est surtout pas une histoire de talent.
Ouais.
Alors, c'est très important.
D'accord. Ah, c'est ça en fait. Hein. Un amateur, ce qui différencie l'amateur du professionnel, c'est pas le talent, c'est le fait que l'un en vive et l'autre non.
Complètement.
Okay.
Voilà, tout simplement. Mais ça, je le dis toujours. Et c'est. Donc, lorsque j'ai participé à une exposition à Salon des Arts au Régate au Havre, ça c'était en avril 2018, et en fait le fruit des ventes permettait de financer un fauteuil pour un handicapé sur un voilier, c'était pour l'association Normandie-Mer.
Ouais.
Et là, c'est la première fois que j'ai peint un porte-conteneur vu du ciel. J'avais envie, c'était l'occasion. Voilà.
D'accord.
Et une dame est passée par là en disant « Mais qui fait ça ?» Alors je ne connaissais pas du tout cette dame. Elle me dit « Mais je vais vous écrire un texte, je vous l'envoie. » Vous savez, moi j'ai travaillé toute ma vie rue de Seine, rue de Paris, à Paris, rue de Seine, pardon. Et en galerie, et j'ai été aussi agent d'artiste. Il y a quelque chose à faire, quoi. Donc j'écoutais. J'ai reçu son texte une semaine après et ça m'a séduit parce qu'en fait, elle a vu des choses à travers ma toile. C'est-à-dire que ces personnes-là voient des choses que moi, même moi, je ne vois pas et ça m'a séduit. Voilà.
Et ça t'a lancé
Le deal était, qu'est-ce qu'on fait Parce qu'elle m'a dit, écoute, toi tu peins, je m'occupe du reste. Ouais. Et là, automatiquement, avec ma femme, ça a été une discussion, parce que c'est un travail de couple, en fait. Hein. C'est pas du tout personnel. Mmh. Et on dit quoi ? Bon, bah, j'arrête mes missions de designer, et puis bah, on y va, quoi.
Donc là, tu repartais de zéro, quasiment.
Enfin, bah, complètement.
À part la technique que tu avais acquise, mais
voilà, en termes
de travail, c'était...
Ça faisait une dizaine d'années, effectivement, que je peignais à nouveau, mais en tant qu'amateur. Ouais. Et là... Et cette personne-là donc, a décroché une première exposition personnelle. Donc l'enjeu, même le stress, la pression était là, quoi. En tant qu'artiste peintre, d'avoir une exposition personnelle au Port Center.
Tu n'avais pas d'autres tableaux que celui que cette dame avait vu ou...
Alors j'avais trois tableaux.
Ouais, okay. En fait. Donc c'était peut-être un peu limite pour l'exposition.
Voilà, c'est ça. Ouais, okay. Donc quand j'ai rencontré la directrice du Port Center à l'époque, elle m'a dit, bah, écoute, ça c'est... Enfin, déjà, j'ai bien aimé sa réaction quand elle a vu un de mes tableaux. Elle a dit, ah, ça je le verrai bien dans mon salon. Donc déjà, ça démarrait bien. Ouais. Et puis après, elle m'a dit, bah, c'est l'occasion effectivement de réaliser une exposition artistique au Port Center. Okay. Et moi, je lui ai dit, OK, mais j'ai besoin d'être en immersion. C'est-à-dire qu'en tant que là, et là revient mon côté scientifique et technique, c'est-à-dire j'ai besoin de savoir ce que je peins. Mmh. Et pour savoir ce que je peins, j'ai besoin de montrer à bord, j'ai besoin de rencontrer les gens de mer. Et puis, donc le deal, on m'a ouvert les portes
et c'est parti.
Pendant 6 mois.
Donc, tu as pu être en immersion sur les bateaux.
Voilà.
On avait le thème. On avait le thème des bateaux, voilà. Le thème du port, des portes-conteneurs.
Voilà.
Y a un point intéressant, c'est que si cette dame a vu ce tableau, ton conteneur que tu avais peint, c'est que ça avait un style très particulier qui se dégageait, à mon avis, qui était fait nulle part ailleurs.
Et voilà,
Et ça, c'est certainement dû aussi, alors à ton talent inné, évidemment, mais aussi à la formation technique, dessin industriel que tu as réalisé, tes études de designer, la formation aux Beaux-Arts, tout ça, ça s'est accumulé pour faire finalement le style qui est le tien aujourd'hui. Et justement, comment tu le définirais, ce style que tu as aujourd'hui, ce style artistique complètement unique? Je crois qu'on ne l'a pas vu. Enfin, quand on voit un de tes tableaux, on sait absolument que c'est toi.
Complètement. Alors, c'est
comment tu pourrais en donner des mots?
C'est ce que disait mon galeriste à Honfleur. Il me disait, mais en fait, quand on voit un Padu, on sait que c'est un Padu. Voilà. Donc, en fait, il me dit, t'as de la chance, c'est qu'en plus, t'es identifiable. C'est-à-dire qu'on identifie tes œuvres, mais on sait qui tu es. Donc, ça, c'est. Alors, parce que j'ai appris beaucoup de choses, justement, là-dessus, hein, en 8 ans. Et je dis, ah oui, effectivement, peut-être, alors. Mais on me demande, mais pourquoi qu'est-ce qui t'a pris? Qu'est-ce qui t'a donné l'idée? Toutes ces choses-là. Donc, j'ai pas encore vraiment la réponse à cela, pourquoi le milieu maritime, pourquoi peindre des bateaux vus du ciel. Et puis je me dis, après tout, effectivement, c'est un tout, c'est-à-dire que tout est réuni, tout mon parcours, donc scientifique et technique, et ensuite le design, qui m'a réconcilié d'ailleurs avec la couleur, contrairement aux Beaux-Arts,
parce que
les couches de colorimétrie en design m'ont vraiment fait comprendre beaucoup de choses, et ça a été un déclic. Hein. Et tout ça fait que, dans le milieu maritime et portuaire, tout est réuni, j'ai tout trouvé, c'est-à-dire que le graphisme, voilà, le métal, enfin je veux dire la technique, et puis les couleurs variantes, on a un tableau à ciel ouvert, quand on regarde et on observe, c'est incroyable. Quand je prends le pont de Normandie tous les jours, matin et soir, et c'est un tableau à ciel ouvert. Je me dis, bah oui, là c'était le berceau des impressionnistes, c'est pas pour rien. C'est-à-dire que vraiment, dès qu'on ouvre les yeux, on se dit, waouh, c'est magique, quoi.
Ouais. Voilà. Est-ce que tu as trouvé, tu parlais du métier de designer, où on a pu trouver une définition de ton travail, enfin, avec toutes les qualités que ça impliquait. Est-ce que tu as un mot pour désigner ton travail? Tu peux le mettre dans une case ou pas, ce travail de peintre?
Difficilement.
Tu as trouvé ça ou pas?
Difficilement. Et même, j'avais croisé une dame qui est d'ailleurs experte au marché de l'art, qui travaille avec les salles des ventes à Paris, et qui est tombée devant mon tableau, et j'aurais dû l'enregistrer parce qu'elle m'a dit, mais en fait, t'es complètement inclassable. C'est-à-dire qu'on ne sait pas dans quelle case te mettre.
Ouais.
Alors ça, j'ai bien aimé parce que j'ai du mal avec les étiquettes. Et effectivement, alors j'ai bien aimé une fois un journaliste qui m'a dit, on pourrait appeler ça du réalisme onirique. Donc j'ai dit, ok, ça j'accepte, c'est sympa. Parce qu'en fait, en tant que designer, je dis toujours, j'apporte de la cosmétique à la réalité. Et je l'apporte dans mes œuvres. C'est-à-dire que je pars d'une réalité, hein, grâce à l'immersion, au fait de monter sur les remorqueurs et puis les portes-conteneurs. Donc moi qui nourris mon besoin technique, en fait, pour savoir ce que je peins. Parce qu'après, quand je vais dans le détail, forcément, on ne peut pas faire semblant. Et après, je peux en parler. Et par contre, je choisis mes détails. C'est-à-dire que là, je décroche de la réalité. Et en choisissant mes détails, c'est là où j'apporte cette espèce de cosmétique pour embellir les choses.
D'accord.
Et magnifier la réalité.
Est-ce que tu peux décrire aux auditeurs un petit peu ton travail. On va dire que c'est souvent vu du dessus, c'est très coloré, c'est très graphique.
Ouais. Tout à fait. En fait, j'ai plusieurs étapes dans mon travail. Il y a un processus. Il y a beaucoup de choses. C'est-à-dire que dans un premier temps, c'est effectivement le croquis, le dessin. Ça, c'est incroyable. Enfin, pour moi, c'est très important, le dessin.
Ça se rapproche effectivement la base du travail, de ton travail de designer ou de dessin technique, en fait. Hein,
ça se rapproche, oui, de l'architecte. C'est-à-dire que je dis toujours, alors déjà, je n'ai pas de drone, ça, parce que tout le monde me dit, mais elles sont belles vos photos de drone. Ouais. Mais je dis, non. Et bon, vous avez un drone? Non. Et en plus, j'en voudrais surtout pas. Déjà, c'est interdit de survoler les terminaux. Et en plus, j'en voudrais pas, parce qu'après, j'aurais tendance à reproduire ce que j'ai vu et photographié. Alors que non, tout se passe au sol. Et après, en tant qu'architecte, c'est-à-dire que je suis capable, et même d'avoir fait, grâce au dessin industriel, je suis capable de faire n'importe quelle vue du ciel, vue du dessus. Alors, c'est pas que un plan basique vu du dessus, il y a aussi après le dessin qui rentre en jeu pour jouer avec les perspectives et du coup un peu tronquer l'œil en se disant, mais on croira une photo alors que pas du tout. Voilà. Ouais.
Et avant de partir, de passer à la partie plus, la réalité plus économique de ton travail, mais on n'en a pas parlé, mais c'est de la peinture à l'huile.
Ouais.
Quelle technique tu utilises? Quel matériau tu utilises? Je sais que tu utilises des matériaux comme la toile qui viennent de Normandie, et ça peut être important de le préciser aussi.
C'est vrai que déjà, j'aime bien travailler sur la qualité. Je suis assez exigeant avec moi-même. Et donc, effectivement, ça a un coût tout ça. Ça, c'est le côté économique qui rentre. Mais effectivement, j'achète mes toiles. Donc, c'est. Je vais pas faire de la pub, mais c'est quand même un fabricant français. On parle sur la toile de lin, donc normande. Malheureusement, qui est ici en Belgique, puisqu'on n'a pas de machine et on n'a pas le savoir-faire pour tisser les toiles.
On a la matière première.
Mais on a la matière première. Donc, ça, moi, je suis super content, en fait, de travailler sur cette matière qui vient de chez nous. Et par la suite, oui, la peinture à l'huile, on prend des pigments qui sont un peu plus chers, c'est pas des pigments bas de gamme en même temps. Et puis quand on le voit, quand on travaille, cette épaisseur, enfin on le ressent sur le pinceau, de toute façon c'est quand même beaucoup plus confortable. Certes, c'est un coût, mais après ça se ressent sur la durée. Moi je dis toujours, une toile, c'est comme ça rentre dans le patrimoine d'une famille. La personne qui acquiert une toile, si ça rentre dans le patrimoine, il faut que ça dure et que ça traverse les décennies, quoi. Donc on prend pas n'importe quelle peinture, mais ça c'est les beaux-arts qui nous l'apprend. Et donc comme je dis, je suis vraiment un peintre très classique, voilà. Même si le résultat est très contemporain, la technique elle est archi classique, quoi.
D'accord, avec des matériaux très nobles et qui sont pérennes, en fait.
Oui, complètement. Ouais. En tous les cas, j'essaye.
Ok. Écoute, merci pour cette première partie, Stéphane. Mais l'art, ce n'est pas que la partie artistique, c'est aussi une réalité économique. Et donc, comme je le disais, je vais laisser la parole à Frédéric pour quelques questions sur la partie entreprise.
Merci Guillaume, merci beaucoup. Merci Stéphane de nous recevoir.
Merci à vous surtout.
Et comme tu le disais tout à l'heure, effectivement, ce n'est pas le talent qui fait un artiste, c'est il le devient si cette activité devient son activité principale pour en vivre. Et donc, il y a forcément derrière, en arrière-plan, une réalité économique, du management, de la gestion. Et ma première question, elle est finalement relativement évidente. C'est, on est dans ta galerie, atelier.
Ouais.
Comment ça se gère? Comment on gère une galerie comme la tienne?
Alors, je dirais très facilement. C'est-à-dire que c'est une transposition. J'ai voulu transférer mon atelier rue de Paris, parce que avant je peignais chez moi, tout simplement. Ouais. Et puis mes toiles, je les déposais en galerie à Honfleur, et puis c'est tout. Voilà. J'ai voulu là transférer mon atelier rue de Paris, parce que l'histoire elle est au Havre, en fait, et que n'importe qui puisse ouvrir et découvre donc mes œuvres, mais en même temps me voir travailler, découvrir mon univers, chose que l'on ne voit pas en galerie.
En galerie,
donc sans trop me poser de questions, c'était plutôt c'est plutôt un but, en fait, hein, c'est de continuer à travailler comme je le faisais avant, et puis à n'importe quel moment quelqu'un peut pousser la porte. Donc et en plus n'est pas censé savoir, et en fait c'est pas écrit atelier galerie, donc on pousse la porte de l'appart et après on me découvre, on dit ben oui je travaille là, et ça je le dis bien,
c'est ce qu'on pourrait
toujours venez me retrouver là-haut et vous me verrez travailler. Ah bon, donc c'est étonnant.
C'est ce qu'on appelle en management la chaîne de valeur, c'est-à-dire qu'on part du début jusqu'à la fin du produit qui est vendu.
Voilà.
Et alors, qui t'a créé cette synergie entre la fabrication et ensuite l'exposition et la vente.
Et voilà, mais complètement en fait. Là, vous mettez des mots, mais sur quelque chose que voilà, auquel je n'ai pas vraiment réfléchi.
Mais c'est venu naturellement.
Mais ça s'est venu naturellement.
Ça s'imposait à toi, quoi.
Ouais.
Et alors, donc tu fabriques, tu peins, tu crées ton œuvre ici, tu l'exposes et tu la vends.
Voilà.
Est-ce qu'il y a alors aujourd'hui, mais peut-être dans le passé, tu as utilisé d'autres canaux que celle de ta galerie aujourd'hui, de la galerie où tu étais à Honfleur, des canaux comme les expositions, la vente en ligne, les salles des ventes.
Alors pas de vente en ligne, parce que j'ai encore un peu de mal avec ça. Parce
c'est
que
un choix, oui.
C'est un choix.
Ouais,
voilà,
d'accord.
Tout simplement dans la mesure où je me dis, mes toiles d'ailleurs, je m'en aperçois quand, sur mes comptes, les réseaux sociaux, Insta ou LinkedIn, quand je poste, parfois j'ai encore la réflexion, ah, elle est magnifique votre photo.
C'est
donc je dis, ben non, c'est voilà.
Faut
alors,
expliquer.
Je dis, non,
c'est
voilà. Pourtant, je le mets huile sur toile de lin. Et du coup, acheter à distance uniquement une toile sur photo, bon, mais je pense que moi, je suis toujours. Je suis partisan du fait qu'il faut
la voir
en vrai. Voilà. Après, les canaux classiques, ce sont les expositions, les salons. Et après, le passage, je dirais presque obligé, c'est le passage en galerie pour un artiste, en fait. Et il faut être prêt aussi. C'est-à-dire que c'est plusieurs étapes. C'est-à-dire qu'on peint, on participe à des expositions, on va dire, entre amateurs, on va dire. Donc je reviens là-dessus, ce n'est pas non plus une histoire de talent, mais c'est juste parce qu'on fait ça en parallèle. Et puis, on n'a pas le souci non plus de produire. C'est-à-dire que dès qu'on passe en galerie, là, c'est autre chose. C'est-à-dire qu'il faut être en capacité de produire, tout simplement, pour satisfaire la galerie. Parce que la galerie, elle est juste là pour vendre des tableaux. Et donc, si on n'a pas de tableau à lui apporter, forcément, ça ne peut pas marcher. Donc, c'est pour ça que pendant 2 ans, j'ai attendu le fait d'être vraiment... pour moi, certain d'être en capacité de produire, parce que la galerie m'avait déjà sollicité 2 ans auparavant. Et volontairement, même inconsciemment, je n'avais pas apporté mes tableaux pour lui montrer, parce que je savais que je n'étais pas prêt.
D'accord. Voilà. Et économiquement, quel est le deal, quelle est la relation entre une galerie à laquelle tu fais appel, ou en tout cas avec laquelle tu travailles? Quel est le deal économique entre...
Bah, le deal économique, c'est elle vend la toile et automatiquement prend sa commission.
Ça reste un pourcentage, mais qui n'est pas fixe, c'est négociable.
En fonction de la notoriété de la galerie,
d'accord.
Ouais, voilà.
Autre question assez évidente et que tout le monde se pose, c'est comment tu fixes le prix de tes œuvres et quels facteurs, notamment économiques, influencent la prise de décision sur le montant d'une œuvre?
Alors, ça a été très facile pour moi et je pense que c'est la même chose pour tous les artistes. C'est-à-dire que je n'ai pas eu à le faire. Je n'ai pas eu à déterminer, à mettre de prix sur mes toiles. Et c'est vrai que je reviens en arrière. Il y a 8 ans, quand je faisais ces expositions, c'est clair que mettre un prix sur une toile pour un artiste, c'est très compliqué.
C'est pas simple.
Et en plus de vendre, c'est encore plus compliqué. Je me souviens, j'étais incapable il y a 10 ans de parler de mes œuvres. Au contraire, je me cachais. Moi, j'étais à 10 mètres de mes œuvres. Je regardais de loin les personnes en regardant mes tableaux. Moi, je me cachais, quoi. J'étais complètement... c'est dingue, ça. Aujourd'hui, c'est complètement différent. C'est-à-dire qu'au contraire, je défends ce que je fais. Je suis capable d'en parler. Et en fait, ce qui est très important, moi, c'est ce que j'ai... ce que je dis toujours, c'est que la valeur économique, forcément, elle est très importante parce qu'elle permet de continuer et d'en vivre. Mais en tous les cas, ce n'est pas le but. C'est-à-dire que ça reste un moyen. Le but pour moi, c'est de peindre, toujours peindre, de faire du bien, parce que l'art fait du bien.
Bien sûr.
Et vendre est un moyen de continuer à peindre.
Et à faire du bien.
C'est complètement différent.
Oui, bien sûr. Justement, tu parlais de continuer. Donc ça renvoie à la notion de durabilité. Qu'est-ce qui fait que la valeur économique d'une œuvre, d'une de tes œuvres par exemple, ou de tes œuvres en général, entre dans une durabilité, une continuité? Est-ce que c'est ta notoriété, la notoriété de l'artiste? Est-ce que c'est la rareté de tes œuvres? Ou d'autres facteurs qui déterminent cette durabilité, cette pérennité?
C'est vrai que tout démarre du prix qui avait été fixé. Alors, quand je dis que je n'ai pas eu à le faire, parce que c'est tout simplement le commissaire d'exposition, mon agent qui a commencé effectivement à vendre mes toiles. Donc, c'est ces personnes-là qui ont déterminé un prix parce qu'eux sont au courant du marché et savent que, voilà, il y a 8 ans, je démarrais et les prix étaient ce qu'ils ont déterminé, en fait. Moi, je n'ai pas eu à réfléchir à cela. Ensuite, la galerie a aussi fixé son prix. Mmh. Et après, je n'ai pas eu à y réfléchir. C'est-à-dire que j'ai repris là, le fait de m'installer ici, j'ai tout simplement repris les prix de la galerie. C'est-à-dire que je n'y mets même en les augmentant. C'est-à-dire que j'ai gardé les prix tels qu'ils étaient. Parce que moi, ça me convient parfaitement, économiquement parlant. Mmh. Donc, il n'y a aucune raison. Après, ce qui en fait le prix, est-ce que oui. Alors, comment dire ? Parce que vous parlez de notoriété, toutes ces choses-là. Alors effectivement, c'est clair que le fait d'être admis, sélectionné sur des salons prestigieux comme le Salon d'automne à Paris, comme le Salon des artistes français au Grand Palais, ça, effectivement, quelque part, ça justifie, ça assoit le prix d'une œuvre. Ensuite, c'est où je vends, où j'expose, toutes ces choses-là, en fait, et à qui je vends aussi. Parce qu'on peut avoir des commandes de personnalités, de gouvernements, ça m'est arrivé aussi. Donc, automatiquement, le prix est assis, en fait, quelque part. Il y a une assise au niveau du prix. Et puis après, normalement, vous parliez de marché. Au niveau des salles des ventes, ça, c'est encore autre chose. C'est-à-dire qu'en tant qu'artiste vivant, quand on achète une toile en galerie ou à un artiste, on parle du premier marché. Les salles des ventes, on parle du second marché. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui ont acheté des toiles et souhaitent s'en détacher, en fait.
Les deux ne sont pas incompatibles, on peut être sur le premier marché et le second marché.
Complètement.
Ok. Quels acteurs dans cet univers donc artistique de la peinture jouent un rôle dans ta carrière? Est-ce que influencent ton œuvre et dans la valorisation économique de ton travail? Est-ce que on parlait des galeristes, on parlait d'un agent, tu as parlé d'un agent. Est-ce que les critiques d'art aussi jouent un rôle? Est-ce que tes clients aussi certains te font peut-être des retours, ou est-ce que ça influence quand même ton travail et la valorisation économique qui va derrière?
Tout influence, en fait. Tout influence sur mon travail. Déjà, c'est le public en premier, parce que quand j'expose et quand je participe à des salons, moi je me dois, je suis présent tous les jours, comme chaque année quand j'expose à l'ENSM au Havre, j'y suis parce que j'ai besoin de ce contact et d'avoir ce retour. Quand ils regardent une toile, leur propre interprétation. Oui, parfois, il y a des trucs exceptionnels. C'est-à-dire, je me dis, ah ouais, vous voyez ça, c'est dingue. C'est-à-dire, je me dis, ouais, quand même. C'est-à-dire qu'il y a une certaine magie dans l'art. Quand on regarde une toile, il y a des personnes qui voient des choses que moi, j'avais pas du tout, j'ai pas voulu créer, en fait. Et ça, c'est hyper important. Je le fais pour ça. Je ne peins pas pour moi. C'est-à-dire que je peins effectivement pour les autres, donc c'est lorsque on me sollicite pour participer à telle exposition, tel salon, voilà, comme l'année prochaine. Alors ça, c'est important pour moi, pour tout artiste, c'est-à-dire qu'il faut avoir une visibilité, ne serait-ce qu'à un an.
Un calendrier, un rétroplanning.
On a un calendrier, on sait ce qu'on doit faire, tout simplement.
Mais là, ça rentre dans une stratégie, je dirais, de création, mais aussi ça rentre aussi dans une stratégie économique, c'est-à-dire c'est une forme de business plan, quoi, finalement.
Ouais, complètement, en fait. Ouais, en disant ça me fait penser à un business plan, c'est-à-dire je suis sollicité pour tel et tel salon, je sais que l'année prochaine va y avoir tel et tel événement, mais en fait, c'est comme toute entreprise, elles ont des carnets de commandes. Alors, à la différence, c'est que moi, c'est pas un carnet de commandes, c'est un carnet de production, sans avoir de garantie de vente.
Mais oui.
C'est là c'est complètement différent.
Sur les aspects économiques, financiers, est-ce qu'il existe des systèmes de soutien aux artistes comme toi qui ont démarré, qui se sont lancés dans cette aventure, des systèmes de subvention, ou d'appartenir à une résidence, par exemple, d'en récolter éventuellement des avantages économiques, des financements publics, ou alors tu te lances dans l'aventure et je veux pas dire ça te risques et périls, mais enfin en tout cas, c'est pas très garanti, quoi.
Alors pour mon cas, c'était me lancer dans l'aventure sans bénéficier de quelques
soutien. Ou filet de sécurité,
soutien, que ce soit. Voilà, parce qu'en fait, déjà, il y a une question d'âge. Donc, au niveau de mon âge, c'est clair que la résidence étudiante, artistique, c'est pas trop. C'est-à-dire qu'il faudrait que je parte directement pendant quelques mois, effectivement, en ermite, quelque part pour... Mais je vous dirais, même à la limite, j'ai pas besoin de ça. Voilà. Donc ça s'est fait naturellement. Au niveau des aides, moi, j'en ai pas bénéficié et quelque part, j'en ai pas cherché. Si, alors, il y a quelque chose qui est quand même assez important, qui permet de faire vivre l'art, c'est-à-dire qu'il y a ces avantages que les galeristes utilisent aussi, les formes de financement d'œuvres d'art en termes d'acquisition, donc tout ce qui est leasing, voilà, ou les avantages quand on achète en direct à un artiste pour les entreprises ou les professions libérales. Alors ça, après, au niveau de la comptabilité, je sais que ça rentre sur certains avantages au niveau leur bilan, mais c'est tout. Mais ça, c'est déjà... c'est super en fait parce que forcément ça ouvre voilà un portefeuille de clients susceptibles d'acheter des œuvres d'art, donc ça c'est quand même hyper important quoi. Voilà.
Peut-être une dernière question, Stéphane, sur ce volet plutôt économique. Comment tu vois l'évolution du marché de l'art, et en particulier la peinture, et cette évolution, comment impacte-t-elle ta pratique, ou pourrait impacter ta pratique dans les... alors, on n'a pas de boule de cristal, mais dans les 2, 3, 5, 10 prochaines années.
En fait, moi, je ne suis pas du tout un spécialiste là-dessus. C'est-à-dire que j'entends beaucoup de choses, j'écoute sur le marché de l'art, sur les personnes qui représentent les galeries, toutes ces choses-là. Effectivement, je n'entends pas des bonnes choses. Je m'en détache pas mal parce que...
Quand tu dis que tu n'entends pas des bonnes choses, ça veut dire...
Oui, en disant, le marché de l'art, oulala, il y a des baisses, enfin, tout est... Voilà, c'est un peu morose, mais un peu comme toute l'actualité, voilà. Et je trouve que dommage, c'est que l'actualité, elle n'est pas vraiment optimiste, quoi, c'est mais dans tous les domaines. Donc, automatiquement, je me préserve de ça, moi, je me mets dans ma bulle parce que, effectivement, je ne veux pas qu'il y ait d'impact sur mon travail. Parce que moi, je suis là juste pour embellir la réalité. Donc, si automatiquement, je me nourris de pessimisme, ça ne va pas le faire. Ça ne va pas le faire. Donc, je me mets dans ma bulle et j'y vais, quoi. Et après, c'est comme une entreprise. Alors, moi, je fonctionne niveau local. c'est tout bête. C'est-à-dire que, alors, même si j'ai des toiles qui sont aussi dans une autre galerie à Rouen, même si j'ai un salon, j'ai des toiles qui sont un peu partout, comme d'ailleurs à Tokyo, là. Donc, il n'y a pas que en France. Mais je reste attaché, en fait, à ce que je peins. Et comme toute entreprise, je sais que, alors, là, c'est économique, c'est-à-dire que le prix de mes toiles, comme sur le marché de l'art, est défini par rapport au format. C'est clair que si je vais faire que du grand format, automatiquement, c'est un certain budget. Et j'ai des personnes qui rentrent dans l'appart et qui me disent « mais vous faites aussi des petits formats ». Automatiquement, ça veut dire « bon, on n'a pas le budget d'une grande toile et on voudrait une petite toile ». Donc là, pardon, je vais effectivement peindre aussi des petites toiles. Donc, la création, elle est là, mais il faut réfléchir sur le support. C'est-à-dire qu'il faut diversifier son offre, tout simplement.
Et là, au besoin de
Là, il y a une réflexion de chef d'entreprise, quelque part, en fait. Voilà.
Parfait, mais écoute, merci beaucoup Stéphane pour tous ces éléments d'information liés à l'économie de ton activité. Et peut-être une dernière partie, Guillaume, je te cède la parole.
Une dernière partie un peu plus libre, un peu plus personnelle, peut-être sur le... On parlait des projets d'avenir, des projets que tu pouvais faire, des commandes que tu avais. Alors je vois qu'il y a un projet en cours avec...
ça, je ne vais pas trop en parler.
Tu ne veux pas en parler? Ah ouais, non, on ne va pas en parler.
Celui-là, non.
Alors, est-ce que tu as des... Alors, à part celui-là...
Pour celui-là, celui-là, je veux vraiment le garder et ne pas trop en parler.
Ah ouais, c'est parfait. Est-ce que tu as d'autres projets, alors, à part des commandes ou... Parce que là, tu travailles pour une exposition ou pour un concours?
Oui, je travaille pour un concours. Du coup, j'ai pas envie d'en parler. C'est un peu... je veux pas que ça me porte la poisse, en fait, le fait d'en parler avant.
Une part de superstition.
Tant que c'est pas fait, voilà. Sinon, effectivement, j'ai fait le un peu le point, là, parce que j'ai pris 15 jours de vacances et ça m'a permis de poser les choses. Et j'ai fait le point. Je me dis, jusqu'au mois de mai, voilà, il y a 9 événements. J'ai déjà 9 salons, 9 expositions de programmer, en plus, effectivement, des commandes. Donc ça fait beaucoup de boulot, voilà.
Donc ça rejoint un peu ce dont vous parliez.
La stratégie, la trajectoire, le prévisionnel, qui rejoint effectivement l'activité économique d'une entreprise classique.
C'est exactement la même chose. Bien sûr, tout à fait.
Et du coup, est-ce qu'il y a des collaborations que tu aimerais faire ou travailler avec quelqu'un? Est-ce que ça peut se faire? faire ça ou pas?
Ça se fait, ouais, ça se fait. Et puis en même temps, oui, j'ai été sollicité avec, par un artiste à vrai pour une collab. J'ai dit, bah ouais, ça me...
Une collaboration, ça se passe comment? Chacun peint la moitié de la toile ou...
Pas la moitié, enfin, chacun travaille, en fait, il y a deux mains.
Il y a deux mains.
Il y a deux mains sur une œuvre.
Avec deux idées et...
Voilà, deux univers différents et on voit comment ça peut fonctionner. Donc ça va arriver, ça.
Ça peut être aussi passionnant, en fait.
Carrément, mais j'adore ça, en fait.
Un échange énorme.
Ah ouais, ouais.
Et justement, est-ce que ça pourrait être un chemin artistique? Est-ce qu'il y a d'autres chemins? Alors là, à ce moment, tu es dans ce style très particulier, magnifique, très coloré, très graphique. Est-ce que tu as d'autres chemins artistiques auxquels tu penses déjà pour l'avenir?
Complètement.
Ou pas?
Oui, c'est... Complètement. Bah, en fait, je ne fais pas que du maritime et portuaire, mais comme c'est ma signature et que j'en suis là grâce à ça, j'ai jamais eu l'occasion, alors... d'exposer autre chose, à part une seule fois à l'abbaye de Montivilliers, ça c'était en 2020, où j'ai eu la chance d'avoir effectivement une expo solo de une trentaine d'œuvres sur le thème de l'architecture. L'architecture au pluriel. Donc j'ai traité maritime, la pierre et le bâti classique, et puis l'architecture mécanique. Donc, et le domaine de la pierre et le bâti, j'avais traité Haussmann et Perret, qui étaient deux visionnaires pour moi, un siècle d'écart, même s'ils se sont connus, mais un a dessiné Paris, l'autre le Havre. Et je voudrais effectivement replonger dans l'architecture Perret, parce que je suis complètement fan. Pour moi, c'était un visionnaire, et du coup, je veux continuer, et c'est tellement graphique. Donc là, on ne va pas être forcément dans la couleur. Il va y avoir de la couleur, mais il peut y avoir aussi du monochrome.
Du monochrome en peinture également.
Complètement, ouais.
Ok.
Tout à fait. Alors ça, c'est prévu. On va dire l'année prochaine, parce qu'il me faut du temps pour peindre.
Il faut du temps pour
la peinture à l'huile, ouais.
Et
ouais.
Pour ceux qui aimeraient se lancer dans la peinture ou qui sont déjà peintres, jeunes ou moins jeunes, amateurs, est-ce que tu pourrais donner des conseils pour se lancer ou pour continuer? Qu'est-ce qu'un artiste comme toi, maintenant, avec son expérience, pourrait donner à quelqu'un qui aimerait montrer son travail ou...
Alors tout simplement déjà, un artiste, il va falloir qu'il se fiche la paix lui-même, c'est-à-dire que voilà, et puis il va falloir qu'il se détende et qu'il se fasse confiance. Mais ça, c'est facile à dire.
Hein. Ouais. Se faire confiance pour un artiste, pas quelque chose de facile.
Bah, en fait, c'est quasi impossible. Hein. Ce que je dis, c'est des belles paroles, mais moi, je sais que mon travail quotidien, enfin, on se remet en question. Mais il faut se foutre la paix, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est bon. Ça permet de partir dans d'autres directions, quoi. Et parce que c'est tellement confortable de rester dans ce qu'on fait, dans sa zone de confort. Bon, ça, c'est quand on est arrivé à un stade où on a trouvé son propre style, en fait. Enfin, son style, sa signature, parce que style, voilà, sa propre signature. Avant toute chose, comme tout le monde, moi j'ai appris à dessiner en recopiant des choses, même en peignant, on recopie des choses. Tant qu'on n'a pas trouvé en fait sa signature ou ce que l'on veut exprimer, bah, en fait on continue. Il faut laisser le temps. Hein. Faut vraiment laisser le temps. Faut pas essayer. Voilà, le but n'est pas de je veux trouver mon style, Non, en fait, ça viendra tout seul. Et le style viendra grâce à son parcours. Et c'est pour ça que chaque artiste est différent, parce qu'on a chacun notre propre parcours, en fait.
Exactement, hein. Très bien. Eh bien, écoute, sur ces excellentes paroles, alors, je pense que c'est des conseils que j'entends et que je prends pour moi aussi également, à titre personnel, pardon. Alors, une dernière question traditionnelle pour notre radio. On se demandait si tu devais être une girafe, quel type de girafe serais-tu? Pense qu'il y a plein de girafes possibles.
Ah, complètement. Mais en fait, c'est marrant parce que si je devais, mais en fait, je suis une girafe, tout simplement parce que je suis déjà une girafe, mais alors avec un très très long cou, je pourrais très bien la dessiner, parce que je dis toujours que j'ai la tête dans les nuages et les pieds sur terre. Et je pense que c'est la girafe, elle est tout à fait symbolique là-dessus.
Et correspond tout à fait à ça.
Ah, mais complètement, voilà. Donc une girafe au long cou.
Eh ben, c'est parfait. Et bien, sur ces paroles, il ne reste plus qu'à te remercier, Stéphane.
Merci à toi,
Stéphane.
Grand
merci à vous, surtout
d'être
venu et puis d'avoir été sensible à mon travail.
Ah, ben,
ça reste que du bonheur.
C'était plutôt simple, je trouve, tellement c'est
extraordinaire.
Donc, on invite vraiment toutes les à vrais et toutes les
Normands
et toutes les personnes qui viendraient au Havre visiter ta galerie, l'Appart, 105 rue de Paris. Avec et franchement, parfois on hésite à entrer dans une galerie parce que c'est pas pour nous, on connaît pas, etc. Mais là, vraiment, n'hésitez pas, parce que non seulement c'est magnifique, et en plus vous serez accueillis de manière parfaite par Stéphane et par sa conjointe.
Je suis très touché. Merci à vous.
Donc, merci à vous. C'était Radio Girafe Normandie, un havre de culture. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur notre application radiogirafenormandie.fr qu'on peut télécharger, enfin, sur notre site internet radiogirafenormandie.fr et aussi sur notre application qu'on peut télécharger gratuitement sur Android ou iOS. Voilà, je vous dis à très bientôt.
Merci, à bientôt.